L'interview.
L'interview, excellence, bonjour, bienvenue à vous en Tunisie et sur les ondes Express FM, c'est votre première interview. Donc,
voilà, exactement, monsieur Voici, merci beaucoup d'être ici. Mais je suis choisi à juste titre, je pense, d'être avec une entreprise comme la vôtre, un peu votre message comme les vôtres, pour avoir mon premier début public ici en Tunisie. Suite à une prise de fonction, il n'y a que 6 semaines.
6 semaines, tout à fait. Vous avez rencontré le président de la République il y a le 20 octobre, il me semble comme ça. Enfin, je pense oui. il y a un mois à peu près. On avait bien évidemment reçu pas mal de fois votre collègue, votre prédécesseur, donc Patrice Bergamini. Aujourd'hui, une question toute simple déjà. Est-ce que l'Union européenne change de politique vis-à-vis de la Tunisie ou il y a une continuité dans la politique?
La seule chose en changement, si je pourrais dire, c'est de l'accélérer un peu la mise en œuvre d'un partenariat qui reste prioritaire, qui reste stratégique. Et pas seulement cela, ça reste aussi unique, je dois dire. Et ça, c'est un peu l'attraction aussi pour moi, comme Européen, comme Autrichien.
Autrichien, oui.
Comme quelqu'un qui a été directeur voisinage autour de la révolution Jasmine. Donc j'étais là à l'époque pour déjà voir un peu comment faire la première réponse européenne à cela. Bon, depuis, évidemment, votre démocratisation a fait suite. Les opportunités des deux côtés ont fait suite. Mm-hmm. Les difficultés des deux côtés ont fait suite. Et là, j'ai un mandat. Quand même fort et très précis de renforcer un partenariat, mais ensemble avec moi, un partenariat qui était mis très bien déjà sur les rails de mes prédécesseurs, mais notamment aussi des gouvernements précédents.
Et justement, tiens, vous me tendez une perche que je ne vais pas refuser. Vous parliez de cette transition démocratique et vous étiez à l'époque directeur de voisinage, donc c'est un poste très très important, en tout cas du moins pour un pays comme le nôtre. Donc vous connaissez très très bien notre pays et cette région d'une manière générale. Alors, une petite évaluation presque 10 ans après, justement, vous savez, travailler sur le dossier dès les premières heures, comme vous l'évoquiez. Aujourd'hui, comment peut-être évaluez-vous, de votre point de vue, d'un point de vue européen, cette transition justement démocratique et puis les challenges qui étaient là dès les premières heures et qu'on continue à essayer de relever?
Clairement, ça reste une transition phare dans le monde, ça c'est clair. Donc on y tient, mais aussi les Tunisiens et les Tunisiennes y tiennent beaucoup. Donc ça reste exemplaire et quelque chose qui vaut être soutenu. Mais il y a une expression française, je pense qu'il faut donner du temps au temps.
Au temps, oui.
Et notamment pour un processus constitutionnel de démocratisation comme le vôtre, 10 ans, c'est finalement pas beaucoup. De l'autre côté, il y a beaucoup de réponses qui ne peuvent pas attendre. Donc beaucoup de vos auditeurs, je pense, sont plutôt du domaine économique. Donc ils sont impatients de voir des réformes se faire, d'avoir plus de compétitivité pour de nouvelles entrants, de nouvelles modalités. De notre côté, on est un peu impatient parce qu'on voit aussi l'énorme potentiel de la Tunisie qui n'est pas encore tout à fait valorisé. Et là, je pense notamment à avoir beaucoup plus d'entreprises, de travailler ensemble. On a ce nouveau catchword du nearshoring, donc il y aurait une vraie demande autour de l'Union européenne d'avoir des approvisionnements qui viennent plus de trop loin, mais plutôt du voisinage, donc d'un pays comme la Tunisie. Mais ça nécessite une certaine modernisation du mode de faire des deux côtés, mais inclus du parti tunisien. Donc, pour résumer, je pense que la démocratisation reste sur la bonne voie. Je pense que ça reste exemplaire, une constitution quand même qui est ambitieuse. Ça c'est clair. Il y a un gouvernement, donc j'ai l'honneur de découvrir un entretien très approfondi avec le chef du gouvernement, mais aussi avec le ministre des Finances.
Ces derniers jours, c'était un marathon. Vous avez presque rencontré.
Je fais une ou deux rencontres officielles par jour, donc du côté gouvernement, notamment après avoir, comme vous dites, ailleurs, être reçu par le président. Lui-même, d'ailleurs, avec un intérêt aussi qu'il sera en Europe au cours de l'année 21. Donc là aussi, une opportunité politique. De faire valoir. Reste à voir un peu comment le faire. De l'autre côté de notre côté.
C'est-à-dire, je suis petite parenthèse, donc vous avez dit pour 2021, il y aurait une visite, c'est ça ou...
Non, ce que j'ai dit, il y a un intérêt qu'il a aussi d'une rencontre tout au niveau entre l'Union européenne et la partie tunisienne,
ici,
à confirmer. Je vous en parlerai si vous m'invitez dans les mois à venir, mais je veux juste dire qu'il y a une bonne dynamique, si je peux dire, de presque tous les pôles, pôles exécutifs du pays. J'avais des bonnes rencontres avec, bon, notamment le ministre des Finances, le chef de la Banque centrale, votre ministre des Transports, Agriculture, Environnement, Équipement. Et le troisième pôle de l'ARP, je voyais plus tard aujourd'hui, pour avoir aussi une première rencontre avec dans ce cas-là, le président de l'ARP et de commencer à connaître la gamme des partis politiques et comment ça se met en place ensemble avec le gouvernement et le président. Donc un chantier démocratique, politique très parlant, un peu complexe on peut dire, mais avec une bonne volonté je vois de mettre tout ça en marche, avec une pression, et là je reviens un peu au volet économique et aussi en termes d'inclusion sociale, avec une certaine pression que dans cette structure constitutionnelle, il y a quand même des décisions qui se feront, des réformes qui doivent se faire pour libérer plus de possibilités, que l'économie tourne, mais aussi que la propulsion d'une inclusion sociale un peu plus accentuée.
Très bien. Alors, lors de vos rencontres, parce que vous avez parlé d'une éventuelle rencontre, enfin en 2021, ça c'est l'aspect politique qui est très important, parce que c'est ce qui valide hein, tout le reste du travail qui est fait sur le terrain, mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce travail sur le terrain. Alors on va marquer une courte pause, M. Oumar Fassel Ksil, Thomas Lajon, j'ai envie de reprendre par cette question, justement, quel travail sur le terrain? Quelles étaient vos conclusions de par vos premières rencontres? Vous avez rencontré le ministre de l'économie, enfin il y a eu le chef du gouvernement, etc. Aujourd'hui, il y a certaines attentes hein, d'un appui financier de la part de l'Union européenne. Quel rôle pourrait jouer l'Union dans les prochains mois? Et les autres projets également, et surtout, vous avez des projets tournés probablement vers le secteur privé. Alors, que pouvez-vous peut-être annoncer ce matin à ce niveau-là? Mais avant, une courte pause. فصل قصير نرجع مع سعاد سفير الاتحاد الاوروبي نحكيو على العلاقه التونسيه الاوروبيه نحكيو على الدعم اللي منتظر معناتها اليوم من تونس معناتها تنتظروا من الاتحاد الاوروبي والقطاع الخاص ايضا دعم القطاع الخاص هذا الكل بعد فصل قصير
اكسبريسو
مواصلين إذن في حوارنا مع سعادة سفير الاتحاد الأوروبي بتونس جدول التحية بونجور alors on disait juste avant la pause vous avez eu des rencontres au niveau donc le président de la République, chef du gouvernement, le ministre de l'économie, mais pas que, il me semble vous avez rencontré également d'autres ministres il me semble même des centrales syndicales également vous avez eu une rencontre à l'UGTT,
voilà, le secrétaire général, oui,
tout à fait. Donc, je pense que vous connaissez bien la Tunisie, vous, de par vos fonctions précédentes. Vous êtes également aujourd'hui ambassadeur ici, vous avez dû travailler vos dossiers, mais en plus, vous avez fait ces rencontres-là. Donc, ce n'est plus un secret de vous dire que la situation est compliquée en ce moment, point de vue social, économique. J'ai entendu que certains de vos interlocuteurs ont exprimé le souhait d'avoir un appui supplémentaire de la part de l'Union européenne. Est-ce que vous confirmez? Et quel type d'appui pourrait aujourd'hui fournir l'Union européenne à la Tunisie?
Merci beaucoup. Effectivement, on a trois grandes gammes de supports, déjà des derniers 10 ans, avec un appui financier, je dois dire, qui est très conséquent. En fait, si j'ajoute tous les chiffres, on a 3 milliards d'euros dépensés entre 2011 et maintenant. Mais la gamme de ce qu'on doit des deux côtés accélérer, c'est sur trois volets. Premièrement, on est, je pense, les donateurs les plus importants qui passent une partie de leur aide à travers le budget. Donc des 300 millions d'euros qu'on a comme don pour 2020 pour ce pays, il y a deux tiers qui passent à travers le gouvernement Et là, grâce à Covid, mais aussi les efforts autour d'une restructuration économique, on a pu quand même mettre un accent sur cela pendant cette année pour être sûr que le gouvernement ait les fonds au niveau santé, éducation et autres pour faire face à la crise Covid. Donc une impulsion au budget important. Donc c'est pour ça que un ministre comme Finance et aussi la Banque centrale sont des partenaires absolument clés de chez nous. Là, évidemment, aussi le chef du gouvernement a répété l'intérêt qu'on continue, même peut-être voir augmenter ce volet de support. Très important, c'est aussi une assistance unique macro-financière qui est en train de se finaliser autour de 600 millions d'euros. Donc on espère d'avoir pouvoir encore décaisser et finaliser ces jours-ci qu'on parle, 300 millions d'euros d'un prêt concessionnaire qui pourrait aussi alléger les contraintes budgétaires à laquelle le gouvernement fait face actuellement.
Une enveloppe globale de 600 millions d'euros, dont 300 qui pourraient être décaissés ces jours-ci.
300 millions, voilà, ces jours-ci. Voilà, encore avant la fin de l'année, on essaie d'y arriver.
Ça, c'est l'Union européenne seulement ou est-ce que c'est ce qui a été étudié avec l'Union européenne et d'autres
Ça, c'est uniquement l'Union européenne, mais je suis content que vous me demandiez parce que, en fait, ce qu'on essaie de faire ensemble comme Union européenne, ça fait partie de mon mandat, de nous montrer comme Team Europe. Un catchword anglais, si vous permettez. Donc, l'équipe de l'Europe qui englobe tous les efforts bilatéraux de mes collègues pays membres qui, elles aussi, sont très conséquentes. Et troisièmement, et je pense que ça, c'est la chose qui, en termes de l'opérationnel, est aussi le plus important, c'est quand même des projets concrets qu'on réalise à travers des partenaires. Et là, il y a une vaste gamme. Encore hier, j'ai été visiter deux chantiers pour la mise en œuvre des quartiers populaires, à travers ARU, mais à travers une modalité projet. On a des modalités projet, notamment pour le secteur économique, pour aider toute une gamme de start-up, de petites filières, de l'artisanat. On essaie de travailler aussi directement avec des banques pour leur faire comprendre que ce n'est pas seulement les grandes entités bien connues, mais en fait le vrai potentiel économique, c'est autour aussi des beaucoup petites entrepreneurs. Et à tout ça, j'ajouterais qu'il y a aussi encore une offre, et peut-être on peut revenir à un moment donné dans votre chaîne, encore de revoir nos accords commerciaux. Commerciaux plutôt, parce qu'il y a plus de potentialité encore de faire plus des deux côtés de la rive de la Méditerranée. Donc ça, c'est la gamme de ce avec laquelle on travaille.
Donc pour récapituler, vous avez il y a les 600 millions d'euros avec 300 millions qui pourraient être décaissés les prochains jours. Il y a cette première partie également plus macro. S'il y a un chiffre sur les engagements actuels de l'Union européenne entre montants décaissés ou pas, parce qu'il y a parfois des projets qui n'avancent pas, donc les montants ne sont pas décaissés, mais l'engagement global, s'il y a un chiffre
pour l'année 2020, en fait, je dirais le chiffre de 600 millions, dont 300 millions moitié en dons et 300 millions en préconcessionnaire.
Donc 300 millions en dons, c'est-à-dire pour
2020, donc deux tiers à travers le budget, un tiers encore à travers des projets, comme je viens de décrire, comme don de l'Union européenne.
Les chiffres se ressemblent, mais ça n'a rien à voir avec les autres 600 millions d'euros dont vous avez parlé.
Exactement, se ressemblent, mais c'est deux fois 300 millions pour 2020, et je pense que ça démontre quand même un effort significatif.
C'est-à-dire, vous avez dit un décaissement de 300 millions d'euros dans les prochains jours, mais c'est un prêt.
C'est un prêt concessionnaire, voilà. Qui s'agreffe à un décaissement de dons dans la totalité, qu'on arrivera plus ou moins à 300 millions d'euros aussi en termes de décaissement de dons de l'Union européenne.
En 2020, pourtant.
En
2020, enfin, il reste un mois. Il reste un mois à peu près.
Oui, la bonne partie, on y arrive. Mais on travaille jusqu'à la dernière journée. Mais j'espère aussi que du parti gouvernement, j'en suis sûr, ils travailleront jusqu'à la dernière année. À tout ça s'agreffe, et là, je peux me répéter peut-être qu'une bonne partie de ces programmes vise aussi d'avoir certaines réformes, notamment dans le secteur économique, se réaliser autour de l'année prochaine pour pouvoir qu'on continue.
Quelles réformes ? par exemple?
Il y a beaucoup, si je regarde les secteurs qui visent l'investissement, il y a en termes de passation de marché public, il y a évidemment le porteur ADES qui doit tourner mieux, toute la logistique, il y a toute la facilité d'investissement autour de beaucoup d'entreprises tunisiennes qui pourraient faire beaucoup mieux, on pense, si un soulagement, soit administratif, législatif, ou aussi de culture, je dois dire, culture en termes d'appréciation de la vaste gamme d'entrepreneurs, de travailleurs, de la recherche, etc. Tout ça, c'est en cours, donc moi, je suis très optimiste, mais j'utilise quand même l'occasion qu'on en parle, qu'on pense qu'on peut, des deux côtés, pousser que ça s'améliore, ça se lubrifie pour avoir plus de potentiel et pour ne pas perdre de vue quand même, comme en Europe, mais aussi en Tunisie, il faut encore travailler pour une meilleure inclusion sociale, ça c'est clair, qui des deux côtés se risque de s'aggraver plutôt d'améliorer autour des problèmes on a avec Covid. On fait un effort à l'Union européenne, mais on est très content de pouvoir le partager aussi avec un partenaire comme la Tunisie. Et là, je pense qu'on est sur la bonne voie et j'ai un bon écho jusqu'à présent de mes interlocuteurs.
Vous avez évoqué le secteur privé. Alors, il y a deux aspects. Est-ce qu'il y a des programmes spécifiques pour le secteur privé? Vous l'évoquiez d'une manière générale tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y a des programmes spécifiques dont vous pouvez donner l'exemple sur lesquels vous travaillez ou vous comptez travailler, ou du moins, en tout cas, dans vos ambitions en tant que nouvel ambassadeur? Est-ce que vous allez vous rapprocher encore plus? Est-ce qu'il va y avoir un travail spécifique pour le secteur privé? Et bien évidemment, il y a cette question brûlante, vous l'aviez évoquée avec diplomatie tout à l'heure, des échanges commerciaux. Donc il y a cette question brûlante des quotas, etc. Et donc ça, c'est l'un des dossiers que vous allez devoir gérer. Par rapport au quotas, on sait sur l'huile d'olive, on sait qu'il y a pas mal de dossiers brûlants à ce niveau-là. Donc est-ce que l'Union européenne adoptera une nouvelle stratégie? Comment vous comptez aborder ce dossier?
Nouvelle stratégie, je pense que non, mais il y a deux choses. D'un côté, il y a des projets avec le secteur privé déjà qui tournent bien, mais qu'on essaie d'accélérer et d'augmenter. Et ça, c'est à travers les banques. On travaille avec Utica et Comar, donc les associations. On travaille pour notamment avec des banques européennes et tunisiennes pour leur faire comprendre la valeur de petites et moyennes entreprises. Là, on a un outil assez intéressant qu'on peut mitiger le risque et d'apporter des garanties, par exemple, pour que les banques puissent avoir plus de confiance dans ce type d'investissement. Parce que finalement, on reste dans le privé, donc on ne veut pas tourner uniquement dans une modalité de don. Mais je répète, tout ce qui est autour de garantie, first risk loss et des fonds puisse améliorer et élargir l'assiette de financement disponible pour les entrepreneurs. Mais en parallèle, et ça c'est notre travail avec le gouvernement, tout ce qui peut améliorer le climat d'investissement, d'exportation aidera des deux côtés. Et ça s'agrefe, et ça c'est le deuxième volet évidemment, qu'on a un accord commercial, mais qui est déjà un peu déjà un peu vieux. Il y avait quelques années un effort de le moderniser. Ça n'a pas abouti parce que pour des maintes raisons, je pense, de compréhension et d'ambition des deux côtés. Mais j'ai un mandat très clair de remettre ça sur la table des négociations. Donc pour l'instant, avec le ministre de Commerce et les autres, et le gouvernement, on les a invités de revoir un peu l'ambition et les intérêts tunisiens et pour revenir vers l'Union européenne avec quelques idées, avec une offre qu'on sera très ouvert de revoir. Et comme vous avez cité les quotas, finalement un vrai accord de commercial, normalement, n'aurait pas besoin des quotas, mais pourrait avoir des régimes qui peuvent même aller beaucoup au-delà, et pas seulement sur l'échange de commodités, mais aussi des services et autres.
Alors, pour l'avenir, justement, on a parlé de cette question de quotas, c'est une question qui revient souvent d'ailleurs par les auditeurs, bien évidemment. Quelles sont vos ambitions? S'il y a Allez, un engagement que vous prendriez ce matin ici, sur lequel on pourra revenir d'ici un an, on pourra faire des interviews entre-temps, mais vraiment, c'est un dossier que vous mettez au-dessus de toute la pile de dossiers sur votre bureau, ça serait lequel? Quelle sera votre priorité pour votre mandat, ou la première partie de votre mandat?
La priorité, des priorités
Ouais.
en termes d'indicateurs, je dirais, pour moi, pour les prochaines 2 ans, c'est de pouvoir démontrer à vos auditeurs que les efforts de support de l'Union européenne auraient créé des emplois supplémentaires durables, et c'est ça dans des conditions de climat d'affaires respectables. Donc on essaie de viser effectivement sur des emplois durables dans des conditions d'une croissance économique durable.
Je remarque, enfin, il y a pas mal de questions. J'essaie de les
Ah oui, d'accord,
comprendre.
oui.
Enfin, l'auditeur, c'est Molade qui dit aujourd'hui, enfin, il parle de contester l'ambition et l'intérêt auprès de l'Union européenne au moment où les entreprises sont discriminées. Enfin, j'essaie de décrypter
Oui,
un petit peu
allez-y.
le message. Voilà ce que j'ai lu. Voilà, enfin. Bon, il y a cette question. Sinon, certains vous demandent d'essayer d'être plus proche, de travailler plus en direct avec le secteur privé, ne pas passer forcément par des lignes de crédit parfois ou par certains programmes avec l'État. Ils disent que ça serait bien qu'il y ait des relations parfois plus directes, peut-être avec les entrepreneurs, etc. Bon, il y a cette question, ce qui est agriculture, qui revient de huile d'olive, de quotas, etc. Moi, je pense que ça, déjà, ça vous donne
Ouais.
du pain sur
Mais
la planche.
je remercie vos auditeurs pour l'invitation. Donc, ça fait partie de mon intérêt et mes ambitions pour évidemment comprendre bien le secteur économique. Et finalement, c'est ça qui fait tourner un pays, sans doute. Je suis bien conscient des problèmes autour du régime actuel sur les quotas d'olive. Ça en soi, c'est un thème intéressant parce que ce n'est pas uniquement le montant de quotas, mais c'est aussi le fait que la structure actuelle n'est pas restructurante, ni pour le marché tunisien, ni pour les producteurs tunisiennes ou tunisiens, ni en fait pour les importateurs de l'Europe. Donc là, c'est typiquement quelque chose où il faut se mettre ensemble des deux côtés pour voir pourquoi ça ne tourne pas bien, comment on peut mieux faire. Et là, je parle aux petits agriculteurs tunisiens pour être sûr que, par exemple, la mise en valeur à travers notre système est favorisée. Le système actuel, par exemple, ne favorise pas la mise en valeur de la qualité de l'huile pour des raisons de procédures et autres. Donc, typiquement, quelque chose qui vaut notre énergie des deux côités. Et là, en fait, avec le ministère de l'Agriculture, l'autre jour, on a parlé cela. Mais ça serait très intéressant, et je suis content de revenir vers vos auditeurs, de parler avec les agriculteurs et les producteurs sur le terrain pour bien comprendre le défi d'un secteur comme celui de l'huile, mais aussi beaucoup d'autres qui me viennent en tête.
Voilà, parce qu'il faut penser justement aux petits agriculteurs ou aux personnes qui travaillent sur des produits spécifiques, des produits bio, mise en bouteille d'huile d'olive bio, etc.
Tout à fait, oui.
Certaines restrictions pourraient les limiter, pourraient les empêcher, eux, de se prospérer, de s'exporter, de prospérer sur un marché tel que l'Union européenne. Enfin, ils attirent votre. Je suis certainement que vous allez faire du community management et voir peut-être interagir avec ces questions. On n'a pas le temps de les transmettre toutes. Merci à vous, Excellence. Je remarque que vous portez. Alors, vous êtes autrichien, vous êtes ambassadeur de l'Union européenne. Si vous étiez hollandais, j'aurais dit peut-être vous portez les couleurs nationales, même si en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne, ça aurait été plutôt une écharpe bleue. Vous
Voilà.
portez une écharpe avec une belle couleur hollandaise, mais il y a autre chose qui se cache derrière, je pense.
Tout à fait. Donc, je suis venu avec le couleur orange qui symbolise une campagne internationale qui a débuté hier. En fait, c'est 10 jours d'activisme contre la violence des femmes. Et c'est une affaire
La violence contre les femmes,
qui
faites
touche
ça.
tout le monde, partout, à tous. Et ça, c'est le message. Donc, une écharpe, un orange. Je vous invite aussi d'aller dans le Facebook, pas seulement de l'Union européenne, mais tous mes collègues européens qui, hier aussi, se sont montrés dans ces couleurs avec le message qu'il faut en faire conjointe. Évidemment, pas seulement ici en Tunisie, c'est une campagne internationale. Mais évidemment aussi ici en Tunisie, c'est un message que je suis content de partager avec vous-même et vos auditeurs.
Merci à vous, merci Excellence d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'était votre première interview, c'est important de comprendre à qui on a affaire aujourd'hui, enfin quelles sont vos ambitions, quelles sont vos priorités. Peut-être, je pense qu'elles sont claires, elles sont économiques, elles sont tournées également vers le secteur privé. Vous avez pu, avant de faire cette interview, rencontrer les syndicats, le chef du gouvernement, le ministre de l'économie, le président de la République. Donc vous avez certainement pris connaissance des challenges que vous connaissez déjà assez bien, comme je le disais. Quand il y a eu la révolution tunisienne, vous étiez directeur politique de voisinage, donc vous connaissez très très bien ces dossiers-là. Il y en aura d'autres, il y a encore d'autres questions, mais nous arrivons à la fin de cette interview. Peut-être, pourquoi pas, voir la Tunisie se rapprocher plus. Il y a toujours ce statut en négociation, se rapprocher plus. Géographiquement, elle est proche de l'Union européenne, mais dans des statuts avec une position officielle. C'est parmi les dossiers qui seront peut-être discutés ces prochains mois et années, lors de votre mandat avec la Tunisie.
Voilà, tout à fait. Donc, on pourrait revenir à un moment donné. Donc, la modernisation de notre, on dit l'accord d'association, lui aussi maintenant à 25 ans, donc il y a peut-être temps de le moderniser, de le mettre à jour.
Et la LECA qui est en stand-by, ça sera un dossier sur lequel vous travaillerez?
Bon, la LECA, c'est ce où j'en fais référence, que j'ai un mandat de revoir nos relations commerciales à travers un nouveau accord. Si oui ou non, il faut l'appeler à LECA, c'est autre chose, d'accord. Mais je pense qu'on a... Déjà pour avoir une nouvelle approche, peut-être.
Déjà, c'est une info. Peut-être qu'on mettra au placard l'appellation à l'ECA.
Donc, pour moi, je ne travaille pas sur l'appellation. Je travaille d'abord sur le fond, et puis on y arrive, et puis on trouvera aussi une formule de le finaliser, d'avoir un nom qui reflète les ambitions, qui doivent encore rester asymétriques, mais quand même qui doivent montrer les ambitions des deux côtés, ça c'est clair. Merci. Avec, j'espère, un bon volet pour la reprise économique et aussi le secteur privé.
On l'espère
ici
aussi.
En Tunisie.
Merci, Excellence. Marcus Cornaro, ambassadeur de l'Union européenne, nouvel ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie. C'était votre première interview. On vous souhaite bon courage.
Merci
beaucoup. Merci beaucoup. حصريا بعد شويه في برنامجكم.